Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, 89.4 FM, www.radio-libertaire.net. Bonjour à toutes et à tous, c'est Davout. C'est parti pour votre petite tranche hebdomadaire de Léo Ferré, une heure consacrée à Léo. C'est une émission spéciale que je vous propose aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous la propose, ce sont Chris et Sylvie, mes amis, que vous retrouvez sur le site leo-ferré.eu, qui vous propose cette semaine la première partie de l'entretien réalisé à l'occasion du documentaire Les Témoins de sa vie, réalisé par Franz Vaillant, un entretien avec Richard Martin. En voici la première partie cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous procurer les cartes d'auditeurs et cartes d'auditrices de la radio à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez également la souscription des amis qui ont les moyens de participer à la souscription. Et enfin, vous avez des autocollants magnifiques que vous pouvez vous procurer à la même librairie, la librairie du Monde Libertaire à Paris.
En même temps que vos impôts, vous pouvez faire monter vos bières. Un jour, vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Il y en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour, nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Il y en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres, on compte vos secondes. Il y en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Il en a marre. Il y a quelque temps, Monsieur Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Il en a marre. Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Il en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la Lune, pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte et il n'y en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe. Il en a marre. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, les étoiles, pour vouloir leur filer les miches? Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, les hommes, pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. On vit, on mange et puis on meurt. Vous trouvez pas que c'est charmant et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements? Qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, la société, c'est pas de la tarte. Mais peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre.
En même temps que nos impôts, vous pouvez faire monter vos bières. Un jour, vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Il y en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Il y en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres on compte vos secondes. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Il y en a marre. Il y a quelque temps, monsieur Franco, à peu près autant des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Il y en a marre. Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Il y en a marre. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la lune, pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte et il n'y en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, les étoiles, pour vouloir leur filer les miches? D'ailleurs, au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, les hommes, pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Il y en a marre. On meurt, vous ne trouvez pas que c'est charmant et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements? Et à la mort, qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, la société c'est pas de la tarte. Il y en a marre. Mais peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Il y en a marre.
Richard, il y a eu, je crois, deux Richards dans l'œuvre de Léo. Il y a eu Richard Marsan et vous êtes Richard Martin. Si on devait vous définir, puisqu'il faut définir les choses aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce qui vous caractérise le plus à l'égard de Léo, c'est indiscutablement un sentiment de fidélité ?
Théâtre, ça c'est une réponse à laquelle je ne peux pas répondre moi-même. La fidélité, non, je crois que c'est simplement de la, ce qui semble être de la fidélité. Quand régulièrement je propose les textes de Léo, les grands textes, ou que je reçois ici des gens qui travaillent sur l'œuvre de Léo, c'est surtout la reconnaissance d'un poète immense. Et le saltimbanque que je suis souhaite depuis si longtemps être le passeur de ces mots. Donc ça, ça peut passer pour de la fidélité, mais c'est surtout une forme de lucidité. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer un certain nombre de personnes qui m'ont permis d'avancer un peu plus vite, de comprendre ou de découvrir. Léo m'a fait pénétrer un monde de poésie, je crois, qui a allégé mon existence, comme celle de tant et tant et tant de jeunes gens à l'époque, qui ne le sont plus maintenant, et tant de jeunes gens qui le découvrent dès à présent. Et si je peux, à mon tour, aider à faire découvrir cette poétique feresque, qui est un travail immense, je ne fais que ma profession d'artiste. Quant à la fidélité en amitié, je l'ai pour tous mes amis. J'ai eu la chance aussi d'être l'ami de Ferré. Lui était d'une fidélité extraordinaire, et chaque fois que j'ai été en difficulté dans cette aventure théâtrale difficile, car il était fou d'oser, après 68, venir ouvrir dans un quartier inconnu de Marseille un théâtre à vocation internationale, les gens nous regardaient comme des fous. Oui, comme des fous, avec une certaine sympathie, mais je voyais bien dans la tête des gens la réflexion. J'écoutais la réflexion de ces gens.
Ça a été le terreau de votre amitié, cette folie commune, cette audace dans ce qui a priori semblait irréalisable.
Oui, il faut savoir ici que déjà les artistes qui habitent ce théâtre sont de toute façon mes amis, et le dialogue commence. J'aimais Léo Ferré avant de le connaître. Jeune homme, dans les moments particulièrement difficiles, je passais des nuits en sa compagnie à écouter le poète, à entendre le chanteur aussi, car sa voix avait un tel charme. Et trimballé, je veux dire, même dans le son, la force de sa poésie. Et ça m'aidait bien souvent à marcher. Quand j'ai eu la chance, en ouvrant ce théâtre, d'y associer Léo Ferré, pendant un certain temps, je n'avais que la reconnaissance de cette participation. Il nous a fallu 2, 3, voire 4 ans d'approche très, très retenue pour que les choses essentielles se comprennent et passent. Et notre amitié s'est soudée de cette façon. C'était le théâtre de Ferré. C'est d'ailleurs quasiment le seul théâtre qui a pu créer le théâtre de Ferré, car il a écrit pour ce théâtre. Et notre compagnonnage s'est normalement développé dans ce climat d'amitié, avec bien sûr toujours cet immense respect que j'avais pour le poète, et puis aussi, de notre côté, cette familiarité tendre que nous partagions en tant qu'amis. Et ça a été cimenté par les combats que Léo est venu, en m'accompagnant dans les moments de détresse, mener avec moi ici à Marseille. Je me souviens de la grève de la faim que j'avais été obligé de faire ici, suspendu à la façade parce que j'avais plus d'autres moyens de me battre. Léo, que je n'avais pas averti directement, est arrivé immédiatement pour me soutenir. Et tout Marseille a été mis en émoi, et Léo était associé à cette bagarre, à bien d'autres aussi. Bon, chaque fois que j'ai eu des difficultés, Léo était tout proche de moi. Il a été extrêmement fidèle. Je crois, il y en a eu quelques-uns dans ma vie, mais un rare compagnon à être aussi attentif. J'ai tellement entendu dire aussi, tout au long de ma vie, des sottises au sujet de Léo, par des gens qui auraient, au lieu de véhiculer des balivernes de ce type, auraient dû le porter, car c'est un tel drapeau pour les hommes libres et debout. Que je suis absolument témoin, je dis quasiment 30 ans de témoignage, d'une fraternité absolue et le constat d'une générosité forte, rare. J'en ai été bénéficiaire, donc viens sur le plan humain, je pense que c'est un type aussi grand que sur le plan poétique. Et ça, c'est aussi important pour moi, tout d'un coup, parce que j'ai bien eu, et très souvent dans ma vie, des rencontres et des respects pour le travail des artistes, et puis quelquefois des décalages avec leur attitude. Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais observée chez cet ami-là. Il a toujours été humainement à la hauteur de ses propositions poétiques. Voilà pourquoi ce qui passe pour de la fidélité est simplement, je crois, le regard lucide d'un artiste au service d'un grand poète.
Parlez-moi de l'homme. Je présume qu'avec vous, c'était votre théâtre à tous les deux. Il n'y avait pas de contrat, une parole donnée.
Ah oui, absolument. Je veux dire, ça faisait partie. Je veux dire, on n'avait même plus à se taper dans la main. Bon, ça veut dire non, c'était son théâtre. Et puis, à ce niveau-là, je veux dire, c'était presque indécent, les contrats. La confiance était absolue. C'est d'ailleurs beaucoup de mal à parler au passé, parce que surtout là, dans cet espace où les fantômes traversent, au moment même où nous parlons de Léo, j'ai vraiment la sensation qu'il s'est assis à côté, ou qu'il bouge d'ailleurs, peut-être il se marre. Et en l'imaginant se marrer, je me marre aussi, parce qu'il y avait, quand il était espiègle, une lumière très particulière dans son regard qu'il appuyait sur le coin, que immédiatement j'avais compris le message. J'ai l'impression qu'il est en train de nous faire passer un message de ce type en disant ben, « Attends, arrêtez vos conneries. » Mais non, il faut quand même que ça se sache, parce que qu'il soit un immense poète, il n'a pas besoin de moi pour le faire savoir. Mais j'ai bien envie que l'on sache aussi que cet immense poète était un humain remarquable. Et les humains remarquables, ça manque dans ce monde où la bêtise plane. Alors oui, aussi parce que je suis témoin de ça, je peux dire que ce théâtre a été sauvé plusieurs fois grâce à Léo. Et j'étais très 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 fier de pouvoir simplement faire quelques pas avec lui dans les rues du monde, parce qu'on a voyagé aussi ensemble, on est allé voir des musiques, des spectacles dans d'autres pays. Et j'avais comme un orgueil particulier à penser que le hasard, la vie, m'avait offert un compagnon de cette valeur à ces moments-là où les minutes deviennent d'inestimables trésors.
Une robe de cuir, comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra. Un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, c'est extra. Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel. Comme une cigarette qui prie. C'est extra. C'est extra. Ces bacs qui tiennent au perché. Comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Et sous le voile, à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Une robe de cuir comme un oubli, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Les maudits blues qui s'en balancent. Cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue. Et vient mourir. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra.
J'arrive au terme de ce documentaire avec vous, qui est la dernière personne que j'interviewe, et j'ai le sentiment, après avoir écouté plus d'une vingtaine de personnes qui ont plus ou moins bien connu Léo, que ça transfère malgré tout une immense solitude, non pas à l'égard de ses amis qui étaient là, mais sentiment de méconnaissance. On pense au vers de « Il marche dans l'horreur, la tête dans les îles », et j'ai le sentiment que plus que jamais, ça a été son lot.
Comme le lot de tous les artistes, il me semble. Hein.
Et lui particulièrement, comment expliquez-vous qu'il ait cristallisé tant de passion, tant de mépris parfois à son endroit, alors que les gens sont unanimes pour louer sa générosité? Comment expliquer un tel malentendu?
Je ne sais pas si les gens sont unanimes pour louer sa générosité, ceux qui le connaissent vraiment, ou ceux qui se sont penchés sur son œuvre, pas seulement à l'écoute des chansons qui étaient largement diffusées. Je crois qu'il y a l'essentiel dans les grands textes de Léo, je crois qu'on prend la dimension de cet auteur, de ce philosophe, de cet immense poète dont on est bien obligé de constater que sa façon de nous avoir écrit oblige à écrire la poésie d'une autre manière.
Comment expliquez-vous qu'il ait été une victime, une cible de choix, on va dire, de la part de bon nombre de médiocres? Et par exemple, en lui refusant des orchestres, en l'emmerdant, ne l'invitant pas sur les plateaux télé, comment expliquer qu'un homme de cette valeur ait pu, à un moment ou à un autre, se retrouver isolé, on va dire, d'une reconnaissance pleine et entière?
Parce qu'il a réussi, d'ailleurs tout seul, à avoir une certaine notoriété dans le tiroir chanteur de variété. Donc c'est déjà suffisant pour les médiocres et les jaloux. Quand il a écrit Benoît Misère, je conseille à tout le monde de relire ce roman. Ma foi, à chaque lecture nouvelle, je découvre des forces supplémentaires. Et on a dit non, c'est pas un romancier. Quand il a voulu composer de la musique et diriger des orchestres, on lui en a voulu parce que le monde de la musique avait déjà ses têtes d'affiche. Le monde de la littérature avait ses têtes d'affiche. Et lui n'était dans aucun cénacle, il faisait partie ni d'aucun salon, ni il se promenait pas dans les couloirs des ministères, dans tous ces endroits où on décide que pendant un certain temps, telle personne sera à la mode, et donc on le propulse, ou il est de bon ton à un moment donné de fréquenter tel ou tel auteur. Tout ça d'une médiocrité absolue. C'est un type qui échappe à la médiocrité. Comment peut-il ne pas avoir d'ennemis ? Je veux dire, on reconnaît l'intelligence au nombre d'abrutis qui la combattent. Et évidemment, ils étaient nombreux, ceux qui sont dans le moule, qui sont déjà très 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 malheureux d'avoir été obligés de s'y mettre dans le moule. Et qui ne peuvent pas comprendre que certains ne plient pas. C'est tellement agréable de voir l'autre plier. On l'attend. Il va finir par ramper, disait Léo. Non, évidemment, et il s'est forcément mis dans la marge. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de Léo. Car si ça n'avait pas été cet homme-là qui était capable de résister dans la marge jusqu'au bout, je crois que c'est un des rares, qui, sans concession, ça ne veut pas dire concession, pas dans le côté brutal du terme, où on ne fait pas de concession, on est un type pur, c'est de la connerie. Non, c'était ce regard lucide sur les hommes, sur les gens, sur la manipulation des individus, un type qui a reconnu... Et nous a fait passer le message de grands libertaires. Que ni Dieu ni Maître soient associés à Léo, c'est pas lui qui a inventé la formule. C'est qu'il a eu de saines lectures. Il nous a fait passer des messages qui sont importants. Toutes les références, au-delà même de sa force poétique, toutes les références qui sont offertes dans ces textes nous permettraient d'aller rencontrer tout au long de notre vie des hommes, oui, essentiellement d'ailleurs, des hommes et des femmes sans doute qui ont compris l'essentiel. Pour moi, c'est cette chaîne d'union là, c'est cette grande chaîne de fidélité à l'intelligence. Et l'intelligence et la générosité, parce que c'est une espèce d'intelligence sensible qui fait que tout d'un coup les mots sont portés par l'humain. C'est pas des discours froids, académiques, intelligents et secs qu'on a l'habitude d'entendre, les références aseptisées, intelligentes ou cyniques qui veulent passer pour de l'intelligence que l'on a l'habitude de croiser dans les lieux de culture dits officiels. Ce qui nous emmerde absolument, quoi. Des semblants qui finissent par nous mettre dans les cul-de-sac où on ne peut plus suivre les intellectuels, on ne peut plus les croire, on ne les aime plus. Alors de temps en temps, on est séduit par des formules. Et c'est tout. Et à l'arrivée, leur travail, c'est de trouver la formule. Quel intérêt ? Franchement, quel intérêt ? Et c'est pour ça que, je ne sais pas, et sans doute y a-t-il encore des hommes qui poussent comme ça, ici et là, pour l'instant je ne les vois pas. Il y a des gens fort intéressants, certes, mais des hommes de ce poil, je le cherche, mais ça fera bien des petits, mais déjà, trouver les gens qui ont compris que leur travail était d'alimenter cette révolte. Ça sera déjà quelque chose de très important. Il y en a. Il y en a, moi je les appelle les fils de Léo, comme on pouvait sans doute les appeler, je sais pas, les fils de Bakounine.
La cigarette sans cravate, confus à l'aube démocrate, et le remords. Avec la peur qui tend la porte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Fardeau blême qu'on emballe comme un ballon vers les étoiles, et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la dalle, cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont. Ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître?
Lors d'un précédent entretien avec Michel Bouquet, il a eu cette phrase, il me dit, mais vous savez, Léo Ferré, ça se mérite.
Ouais. Je suis content d'entendre dire ça. Je suis content d'entendre dire ça parce que je l'ai observé. Et j'avoue, moi-même, avoir eu quelques faiblesses, quelquefois, sur des textes que je ne comprenais pas, et que j'assimilais à de l'écriture automatique, quoi. Comme ça, d'une poésie qui coulait, mais qui me déroutait. Et puis, en travaillant les textes de Léo, puisque je ne cesse d'y être plongé, parce que je veux découvrir vraiment cet auteur, je me suis rendu compte, reprenant par exemple sur Alma Matrix, 6 mois ou 8 mois après le texte, un texte que j'avais appris sans bien le saisir, tout d'un coup j'en avais les clés. C'est comme s'il m'avait fallu tout ce temps pour y arriver. Et effectivement, je me dis, tiens, mais j'ai mérité d'être éclairé. Et alors on peut lire, je peux comprendre que certains lisent ce texte, certains de ces textes, sans pouvoir s'y plonger vraiment. Et puis petit à petit, la vie, les blessures, les amours, les grandes souffleries, tout d'un coup, on reprend un texte et on s'y baigne et on comprend et on dit, mais c'est fantastique. Mais oui, mais c'est fantastique, c'est de cette force-là. Et je dis, c'est de cette force-là. Et même maintenant, je fais un crédit extraordinaire à des moments que je ne peux pas encore appréhender par expérience. Mais je me dis, tiens, ça, je ne l'ai pas encore mérité. C'est pour ça que je suis très sensible à la formule de Bouquet, dans ce sens-là. Et puis, de toute façon, il y a des gens qui vont passer à côté toute leur vie. Parce que peut-être c'est pas de leur faute, c'est peut-être que le mot. Effectivement, quand on y pense, moi je fais partie de ces hommes qui n'aiment pas le mot mérite. Parce que ce que je peux peut-être regretter, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne puissent pas recevoir ce message de Ferré comme d'autres poètes, parce que la société ou la vie ne leur a pas permis de le faire, parce qu'à partir du moment où on vous fout dans la maternelle, dès que vous regardez par la fenêtre parce que vous voyez passer un oiseau, c'est pas bien, quoi. Alors que le message de Ferré, c'est « regarder passer les oiseaux », quoi. Mais bon, moi, je me souviens, je me faisais taper sur les doigts quand je regardais trop longtemps par la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est, Martin, qu'est-ce que c'est, cet imbécile ?» J'étais là, regardé par la fenêtre, à rêver, parce que j'avais vu des choses que les autres ne voyaient pas. Par contre, c'était pas bien que je voie ça. Et je disais, « Mais monsieur, vous avez vu cet oiseau passer ?» C'est qu'il me prenait quasiment pour un fou. Et donc, je me mettais dans la croisée, dans la marge, où on m'y mettait absolument aussi. Et les hommes qui ont subi ce genre de pression infâme, eh ben, on les empêche souvent d'ouvrir les livres importants. On les fout devant des trucs là, des trucs qu'on appelle Star Academy ou des c'est pour, je ne sais même pas en faire de la publicité à un truc pareil. C'est débile absolu, quoi. Les gens on les nourrit de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut leur en vouloir de ne pas mériter Léo Ferré? Non, moi j'ai envie d'aller casser la gueule à tous ceux qui sont conscients et qui manipulent ça. Ça, oui. Mais par contre, oui, je salue Ferré qui a pu, lui, avec ses chansons, avec ses musiques, faire passer les poètes. Le nombre de gens qui n'auraient pas entendu parler de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, d'Apollinaire, si Léo ne les avait pas chantés. Aragon. Je pense qu'Aragon doit beaucoup à Léo dans le populaire, pas dans les salons, on l'avait reconnu, mais dans l'humain, dans le monde, dans le vrai monde. Ça c'est magnifique quand on arrive à faire poser, quand il dit dans la rue la musique, oui, dans la rue la poésie, oui, dans la rue tout là comme ça là, tu croises et tu croises et tu offres. Et les gens entendent, hein. Les gens les plus humbles, si on arrive à, simplement à faire qu'ils aient un moment de disponibilité pour entendre, ils écoutent et ils voyagent. Il y en a marre de prendre tous les gens pour des imbéciles. Et c'est pour ça que je suis séduit par la formule de Bouquet, et je la comprends dans le sens littéraire du terme. Et en même temps, je voudrais dire que tout le monde mérite d'entendre et de pénétrer les poètes. Il y a de toute façon chez tout humain ce fond-là qui ne demande qu'à exploser. Et quelquefois, il faut être tellement rebelle pour résister et pour s'échapper de tout ça. Est-ce qu'on peut en vouloir aux enfants qui ne sont pas suffisamment rebelles, ou ceux qui l'ont trop été pour, à un moment donné, même ouvrir quelques livres que ce soit, parce qu'on les a tellement emmerdés qu'ils ne demandent qu'un truc, c'est aller casser la gueule à tout le monde.
Apprendre rien, c'est difficile, et délicat, et compliqué, et con, et inutile. Czerny, d'accord. Larousse, d'accord. La géo, d'ac. La pharmacopée, demandait à mon père, c'était un spécialiste. Il emportait avec lui des valises, le sentiment barré du codex, des infusions particulières, qui sait, l'éternelle jeunesse. Et si je meurs? Il est mort. Apprendre à rien. Cet Hamlet tient. To learn or not to learn, dat statis, c'est con. La méthode? Seul sur un chemin de chèvre à la montagne, au moment où il ne va plus y avoir d'arbres, au moment où la végétation peut s'écrire facile sur une page de ton agenda, et puis même pas te frapper pour le téléphone, tu parles à voix basse, et tu t'entends te répondre, c'est bat, non? Le circuit fermé. Allô, le temps? Yes. And you? Pas mal, 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 pas mal. Tu prends une pierre dans ta main. Personne n'y a jamais touché. Tu te rends compte? Une pierre vierge pour toi tout seul, éternellement. L'adultère chez les pierres que tu maries, comme ça très vite, c'est rare, c'est rare. Une pierre, ça s'accroche, comme les étoiles. J'ai déjà vu les étoiles à toi se barrer avec un particulier dans une galaxie vaste. Tu regardes un coq de bruyère qui passe en te faisant peur, parce que le bruit que peut faire un coq de bruyère quand tu as la pierre en main et qu'il n'a jamais eu touché une main humaine, eh bien ce bruit est fantastique. Ça fait fou, fou, comme Czerny. Écoute. Quel salaud. Tout à coup, une source, pas loin du glacier, et puis des fleurs sauvages, à se demander vraiment, Harlem, tu causes, tu crois? Des fleurs noires de la débauche ou de l'anarchie, non. Les fleurs noires de pierre, de l'amour. La méthode, apprendre tout par cœur, surtout la gueule des gens. Et puis tout oublier immédiatement, comme à l'école. Vous avez appris la gueule de grammaire. Ouais. Alors, elle est vieille. Comment ça fait? Je t'aime, tu m'aimes. J'aime. Apprendre, oui. Apprendre. Sentir les fumiers avant de les apprendre. Dresser son nez. Faire des exercices particuliers. Le téléphone? Allô? Et puis tout de suite, forer son nez dans l'écouteur. Oh là 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 là, il n'est pas là, monsieur. Comment? Allô? Je n'entends pas, mais je sens. Et tu raccroches. Au début, c'est difficile. On ne sait pas si tu écoutes ou si tu renifles. Et puis, petit à petit, entre Dior et la merde, il n'y a souvent qu'une question de circuit mal branché. Je suis un olfactophone. Je suis un vieux corbeau qui traîne sur les fils télégraphiques. J'en apprends des choses. Les fils télégraphiques, c'est un peu le cabinet de la chose publique. Je n'ose pas décrocher la nuit parce que ça sent quand même la méthode. Article 1, casser les téléphones. Les autres, l'autre. Les autres, c'est facile. C'est toi, multiplié par eux, c'est clair. Les autres, c'est tes pantalons enfilés par eux, c'est clair. L'autre, j'y reviendrai. Article 2, casser les autres. Quand tu t'es enfilé comme ça, une peau de crocodile sur le sentiment, alors on on ne t'approche plus que par ouï dire « Ah, celui-là, on ne sait pas qui c'est exactement. » Et tu poursuis ton chemin, ta cigue ou ton chien, si tu as le sens de la réverbération. Les chiens ne sont pas les autres. Il fallait bien savoir un jour ou l'autre, les chiens, ça réverbère. Hein, quelque part qui est juste sur la bulle de l'univers, un peu en dehors. Ils sont un peu en dehors, les chiens. Nous bouillons de l'administration. Nous sommes des administratifs. Article 4, casser l'administration. T'as deux points, frappe sur la table, frappe la tête. T'as deux points. Mets-les au bout de tes bras, le long de ton corps. Et prends des loups par la main. Ton point alors s'épanouira comme une fleur matinale. Tu as deux points. Frappe sur la table. Tu as deux points. Le silence que j'ai perdu au bout de cette rue barrée ne m'a jamais été rendu. J'habite en haut de ces pavés. J'y vois des pays trop marins, des fleurs, des figues délaissées et le système de ton bien. Allongé dans cette rue blême, tu passais sur moi comme un char. C'était de la guimauve en carrossée de miel. Alors, je m'abreuvais en regardant dedans. Oh, les sources de brume dans ces rues dévêtues. Tu as deux yeux, regarde en dedans de toi et sors-toi par les yeux. C'est aussi ça la méthode, s'extirper. Article 5, s'auto-vomir et s'offrir en prime. La salope de Cahors, chacun a une salope quelque part. Moi j'en ai par-ci par-là et à Cahors, je me souviens de ces lilas dont elle fleurissait ma maison. Avant que cette salope-là ne prenne sa vrille, elle m'avait fourgué des fleurs histoire de montrer son bon cœur. Ben dame, un cœur il faut que ça brille. Il y a des gens que ça fait marronner de ne pouvoir jamais entrer dans l'intimité des artistes. C'était dans son genre à elle une artiste. Elle est entrée. Le trou de serrure où tu lorgnais, c'était ma cavale de la nuit. Et toi, tu venais de tapiner en tapinois, en tapinouille. Dis-moi, la salope de corps, où traînes-tu ta gueule encore? Sur quelle fosse à purin, sur quelle poule à garangésine? Dis donc, la voyeuse de Cahors. Sur quel fumier, sur quel jardin, sur quel azur fais-tu ton deuil, toi? L'amour, tu le fais avec ton œil. Et dire qu'elle me disait l'autre, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons ces deux-là? Chacun une salope quelque part, moi. J'en ai par-ci, par-là. Et à Cahors.
C'était le Ferry Club. À bas la sociale, vive l'anarchie. Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Et à la semaine prochaine.
Pardon, Léon. Vous savez ce qui manque? L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.
C'est ce qui manque dans ce monde.